Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Mieux vaut tard que jamais, Soch se met enfin à la 5G comme on l'avait annoncé sur MacG avant-hier. Le lancement a été chaotique, mais maintenant c'est bon, on peut s'offrir un forfait 5G plus cher qu'ailleurs chez l'opérateur low cost. Avouez, ça valait le coup d'attendre. En deuxième partie d'émission, c'est vendredi et donc c'est un nouveau replay de la semaine avec Christophe. Mais aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait faire un peu le tour des dernières rumeurs avant la WWDC. Préparez le popcorn, il y a beaucoup à dire. Nous sommes le vendredi 2 juin, voici les infos qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Soch s'est finalement lancé dans l'aventure de la 5G et c'est pas trop tôt. L'opérateur low cost d'Orange était un des derniers à se contenter de la 4G. Soch propose donc un forfait 140 gigas à 20,99€ par mois, sans engagement évidemment. Le lancement a été très brouillon, sachant que ça fait des mois que c'est en préparation, c'est un peu étonnant, même si les opérateurs sont généralement très mauvais au niveau de leur communication. Tous ceux qui sont déjà abonnés Soch peuvent passer au nouveau forfait, ce qui n'était pas le cas dans les premières heures du lancement. Et les clients au forfait 70 gigas de 4G à 26€ pourront profiter de la 5G automatiquement. Cette formule comprend les appels illimités vers plusieurs pays. A vous de voir si ça vaut les 5€ en plus. Par rapport à la concurrence, Soch n'est pas spécialement bien placé. Chez BNU par exemple, on peut avoir 130 gigas de 5G pour 16€. Chez SFR Red, on a 100 gigas de 5G pour 17€. Soch peut compter sur un atout important, la qualité du réseau 5G d'Orange. Mais est-ce que ce sera suffisant? Rien n'est moins sûr. Apple avait annoncé il y a pile un an que No Man's Sky allait sortir sur Mac. Les joueurs ont dû prendre leur mal en patience ou utiliser une autre plateforme pour jouer au jeu de Hello Games, mais bon, tout finit par arriver. No Man's Sky a en effet fait son apparition sur Steam au prix de 59€, il sera aussi distribué sur le Mac App Store. Le studio a travaillé avec Apple pour optimiser le jeu au mieux. D'ailleurs, il utilise l'API Metal 3 pour des meilleures performances sur les Mac M1 et M2. Bonne surprise, le titre est aussi proposé sur les Mac Intel. Mais bon, le truc, c'est que No Man's Sky n'est pas tout récent vu qu'il est sorti initialement en 2016. Alors, c'est quand même difficile de s'emballer pour une version Mac. Par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que Hello Games glisse dans son communiqué que l'avenir s'annonce radieux pour le matériel d'Apple. Évidemment, avec notre esprit mal tourné, on pense immanquablement au casque de réalité mixte, surtout que le jeu est aussi disponible en VR pour Windows. Alors, pourquoi pas sur XROS ? Réalité mixte suite avec la réponse du berger à la bergère. Meta n'a pas attendu l'annonce du casque d'Apple pour dévoiler son Quest 3. L'appareil se présente comme le champion de la réalité mixte avec un système vidéo qui intègre les univers virtuels dans l'environnement de l'utilisateur grâce à des caméras couleurs. Meta met le paquet sur cette technologie qui est effectivement plus en prise avec le réel que la VR. Par contre, l'entreprise ne dit pas un mot du métavers. On comprend que le concept imaginé par Mark Zuckerberg ne rencontre pas le succès escompté et c'est un euphémisme. Les performances graphiques du Quest 3 devraient être au rendez-vous avec une nouvelle puce Snapdragon. Et Meta a aussi travaillé sur le poids du casque ainsi que sur les contrôleurs qui ont une ergonomie revue et améliorée. Le tout sera disponible dans le courant de l'automne pour 570€. C'est tout de même 200€ de plus cher que le Quest 2 au moment de son lancement en 2020. D'ailleurs, ce modèle reste au catalogue au prix de 350€. Ce n'est pas vraiment une surprise, Apple a revu à la baisse le prix du Season Pass pour voir le championnat de foot de la MLS. Le pass coûte maintenant 39€ au lieu de 89€. C'est un peu normal vu qu'on est maintenant à la mi-saison. Ce qui est plus intéressant, c'est ce qu'Apple ne dit pas dans cette histoire. Eddie Q, le grand patron des services chez Apple, a fait une déclaration où il se dit ravi des premiers résultats et gnagnagna, la langue de bois habituelle. Il dit aussi qu'il est certain que le meilleur reste à venir, ce qui implique peut-être que ce n'est pas encore le cas, mais vous le savez, j'ai un mauvais esprit. Apple a signé pour 10 ans de MLS au prix de 2,5 milliards de dollars. Alors le constructeur a le temps de faire mousser son service pour atteindre ses objectifs en interne. Et si ça n'arrive pas assez rapidement, Apple sait de toute façon aménager une porte de sortie qui lui permettra de casser le contrat. Ce vendredi est un peu particulier, c'est en effet le dernier vendredi avant la WWDC qui va être bien chargée, cette année peut-être même plus que les précédentes éditions. Du coup, on va se faire un replay de la semaine un peu spécial aujourd'hui, puisqu'on va surtout parler avec Christophe de ce qui nous attend dès lundi. Salut Christophe !
Salut Mickaël, bonjour à tous.
Alors ça y est, on y est, lundi, on saura enfin à quoi va ressembler TVOS 17. Est-ce que t'es emballé ?
Ah super ! Hâte de voir le multiplex avec la Ligue 1 et tout. Je suis sûr qu'ils vont faire un accord avec Amazon, ça va être top.
Bon, blague à part, la WWDC 2023 annonce du lourd et on devrait avoir droit à un bon gros keynote avec des tas d'annonces dans tous les sens. Est-ce que le danger finalement, c'est pas qu'il y en ait trop et que certaines nouveautés passent complètement sous le radar ? On s'était dit, je crois, c'était la semaine dernière, que ce qu'avait annoncé Apple dans les semaines précédant la WWDC aurait pu faire un keynote de printemps. Ma question au fond, c'est est-ce qu'il n'y a pas un trop gros déséquilibre entre la WWDC et le reste de l'année finalement ?
Alors, c'est simple. Chez Apple, on a l'impression que l'année commence en juin avec la WWDC, ou voilà. Peut-être on va dire mi-mai avec les pré-annonces, ouais. Et qu'elle se finit tranquillement fin novembre à l'occasion de Thanksgiving, quand Tim Cook accorde quelques jours à ses employés de congé. Mais c'est vrai que les annonces de la semaine prochaine, elles vont conditionner le reste de l'année. Oui. Les nouvelles versions des iOS nous permettront d'avoir un avant-goût de ce qu'Apple prépare sur le front matériel à la rentrée. Donc oui, c'est évidemment une semaine capitale. Après, il est arrivé à certaines années à la rédaction que justement les premiers mois de l'année, ils soient vraiment vraiment longs, ou des fois ouais. on creuse des méninges pour trouver des sujets. Ouais. Ça n'a pas été trop le cas cette année, mais parce que l'actualité est quand même très très riche, ne serait-ce qu'avec l'intelligence artificielle où il y avait beaucoup à dire. Et même, côté Apple, il y avait sans doute matière à faire un keynote au printemps. Alors, est-ce que ce nouveau format où Apple appuie sur Play, ça change la façon dont Apple voit les choses et sa communication, peut-être. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, keynote en live ou keynote enregistré, lundi, tout le monde sera là pour voir les grandes annonces.
Alors, justement, revenons à nos moutons. Quelle est l'annonce que tu attends le plus, finalement, la semaine prochaine ?
Le casque, sans aucune hésitation. Même si, à première vue, je suis pas client. Enfin, je ne suis pas comme Félix avec une collection de casques VR à la maison. Mais j'ai discuté avec Florent Morin, donc, qui est développeur et qui a la chance d'assister à la WWDC. Et je lui ai dit, tu as vraiment de la chance parce que potentiellement, c'est le keynote de la décennie. Hein. Oui. Ou pas d'ailleurs, mais enfin, on verra si le casque fait un bide. Mais dans l'histoire d'Apple, c'est peut-être bien quand même l'événement le plus important depuis l'iPad. Je mets pas l'Apple Watch au même niveau, parce que l'Apple Watch, malgré tout, ça a toujours été vendu comme une extension de l'iPhone. Oui. Tandis que là, avec le casque, on rentre a priori dans un nouveau paradigme.
Le casque de réalité mixte va venir avec son propre système d'exploitation qui devrait s'appeler XROS. Quand on voit que tvOS, macOS et même dans une moindre mesure iPadOS ne reçoivent finalement pas beaucoup d'amour, est-ce que s'ajouter une toute nouvelle plateforme qu'on imagine assez gourmande en technologie et en ressources, ça fait pas un peu beaucoup ? Ou alors peut-être que le rythme de mise à jour annuel, c'est vraiment trop ?
Ah, c'est certain que si macOS pouvait revenir à un rythme un peu plus plan-plan et être et gagner en stabilité, moi je signerais pour ça. Il y a pas photo. C'est vrai que l'App Store est quelque part l'arbre qui cache la forêt. Hein. Bon, alors l'iPad est encore un cas un peu à part parce qu'il bénéficie de la dynamique de l'iPhone, mais que dire des autres, le Mac App Store, ça vivote. Hein. C'est vraiment c'est la petite PME d'Apple. Mais alors les autres boutiques, c'est la vallée de la mort, hein, parce que voir des nouveautés, il faut s'amuser de temps en temps à lancer dans les app stores de l'Apple Watch et de tvOS la liste des mises à jour. Ouais. Ça se bouscule pas. Alors que quand on lance, on s'amuse au bout de deux jours de consulter cette même liste sur l'App Store, on se retrouve avec 20 ou 30 mises à jour dans les tuyaux. Ouais. Donc voilà. Mais alors c'est sûr que pour réussir le lancement de cette plateforme, Apple a impérativement besoin du soutien des développeurs. D'ailleurs, c'est pas un hasard si le casque finalement est présenté à la WWDC. Ouais. Après, de ce que l'on croit comprendre, les applications pour casque seraient relativement proches des applications pour iPadOS.
Ouais.
Si ça se trouve, une application iPad pourrait même être directement fonctionnelle sans changement ou avec très peu de changements. Donc c'est voilà, ça pourrait être la force de ce produit-là, sachant que malgré tout, pour répondre entre guillemets à aux difficultés des développeurs à créer des applications pour toutes ces plateformes, Apple met quand même beaucoup de choses en place, notamment avec Swift UI, pour faire en sorte que qu'un code puisse finalement être adapté après de l'Apple Watch au Mac en passant par l'iPhone.
Est-ce que tu as l'impression que Tim Cook joue vraiment son héritage chez Apple avec cette histoire de casque ?
Oh que oui. Il n'a fait à ce jour qu'exploiter le potentiel d'Apple. Il n'a pas créé quelque chose de vraiment nouveau, hormis peut-être l'Apple Watch. Mais attention, quand je dis ça, il faut aussi lui rendre hommage.
Oui.
Il a exploité incroyablement bien ce potentiel, sans doute au-delà de toutes les espérances.
Il a vraiment pense aux AirPods.
Oui, mais en même temps, Apple faisait des casques avec l'iPod, donc c'est vraiment, on reste quelque part dans la lignée. Mais voilà, c'est vrai qu'en termes de potentiel, d'une société qui vendait, qui livrait des casques avec ses iPods, Apple est devenu quelques années plus tard, le plus gros fournisseur de casques sans fil au monde. C'est pas rien. Hein.
Ouais.
Alors, l'iPhone et plus généralement les smartphones, ça reste l'outil informatique de référence pour l'humanité. C'est vraiment l'outil que tout le monde a. Quelque part 2007, donc la date de présentation de l'iPhone, ça signe la fin de l'ère de la domination du PC et du Mac par extension. Donc voilà, est-ce que cette ère du smartphone va toucher à sa fin prochainement, à l'horizon de la fin de la décennie peut-être ? C'est peut-être le pari de Tim Cook avec ce casque qui est sans doute amené à se transformer dans quelques années en lunettes.
Ouais.
Et c'est là où quelque part que les choses sérieuses vont commencer.
Alors, pendant le keynote, on va surveiller de près les Macs, parce que ça a l'air de bouger pas mal ces derniers jours. Évidemment, on attend le MacBook Air de 15 pouces, mais il y a aussi cette rumeur de nouveaux Mac Studio avec des puces M2 et aussi ce gros point d'interrogation au-dessus du Mac Pro.
Je m'inquiète parce que le M2 ayant tendance à plus chauffer que le M1, il va y avoir des polémiques de ventilateurs, je les anticipe d'avance, surtout en pleine canicule. Là, ça, voilà. Plus sérieusement, il y a eu un gros rétropédalage sur le Mac Studio. On nous a longtemps expliqué qu'une révision n'était pas à l'ordre du jour. On nous a même laissé entendre « revenez l'année prochaine, on verra ». Alors, trois choses. Soit les rumeurs se sont trompées et Apple a toujours voulu sortir un Mac Studio M2. C'est possible, après tout.
Ouais.
Soit Apple est complètement à la bourre avec le Mac Pro et se rend compte que finalement, le Mac Pro est basé sur une architecture M3 et que tout ça, ça ne sera pas possible avant 2024.
Ouais.
Et que d'ici là, il faut bien occuper un peu le terrain et que finalement, changer une puce, mettre une puce, remplacer du M1 Max par du M2 Max ou de l'Ultra, c'est assez facile.
Mm-hmm.
C'est une possibilité.
Oui.
Dernière hypothèse, parce qu'on est à 3 jours de WDC et on a le droit de rêver, c'est fromage et dessert. Voilà. Donc, on a du MacBook Air 15 pouces, du Mac Studio, du Mac Pro.
Allez.
Et tout le monde est content, surtout le banquier.
On n'attend pas de gros changements dans iOS 17, même si ces derniers temps, les rumeurs promettent quand même des améliorations pour l'écran verrouillé et deux ou trois petites choses nouvelles. En fait, c'est surtout dans les coulisses que ça va être intéressant avec le sideloading en Europe l'année prochaine. Mais ça, on se doute qu'Apple va rien annoncer là-dessus.
Je partage assez ton avis sur la question. Ou alors ce sera au fond d'une slide que tu vois vraiment tout au fond d'un écran qui passe pendant 2 secondes et qui résume l'ensemble des nouveautés avec un terme à rien y comprendre. Enfin bref, je doute que la régulation européenne soit évoquée pendant la WDC. Ou alors si Tim Cook est d'humeur à envoyer des tacles. Mais ça lui ressemble pas trop. Bon, après, iOS, c'est malgré tout un système stable et mature, mais il ne faut pas oublier que ça reste le moteur du best-seller d'Apple.
Ouais.
Et quoi qu'on en dise, Apple est obligé d'inclure des nouveautés qui valent le détour pour, provoquer la curiosité des utilisateurs. Alors, est-ce que ces nouveautés seront au cœur du système d'exploitation ? Est-ce que ça prendra la forme de nouvelles apps ? Est-ce que ça sera des refontes importantes d'apps existantes ? J'en sais rien, mais je suis persuadé qu'il y aura des trucs, forcément des trucs intéressants.
Est-ce que finalement le plus intéressant à suivre cette année, ce ne sera pas WatchOS 10, parce que pour le coup, on devrait avoir droit à pas mal de nouveautés au niveau de l'interface, et puis faudra bien ça, parce qu'a priori, la série 9 n'aura rien de franchement renversant.
Ce que j'entends avec WatchOS 10, moi, ça m'intéresse et ça m'inquiète en même temps.
Ouais.
J'ai peur que Apple se soit beaucoup concentré sur l'interface et qu'ils aient fait d'ailleurs des changements qu'on attendait depuis fort longtemps, et voilà, que le concept d'app soit moins central qu'il ne l'est actuellement. Mais justement, en parlant d'app, j'ai peur que Apple n'avance pas ou peu avec ses apps, voilà, qui est juste une nouvelle interface et rien d'autre. Et bah, quoi qu'on en dise, les apps d'Apple incluses avec WatchOS, et je ne parle pas forcément uniquement des apps de sport, hein, il y a une marge de progression qui demeure quand même très 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 importante.
Ouais. Est-ce que tu es prêt pour la plus grosse semaine de l'année ?
Oui, je suis prêt. J'espère que malgré tout, Apple n'a pas oublié macOS, parce que voilà, maintenant que Ventura est quasiment en fin de cycle, c'est l'heure de faire des bilans et c'est franchement pas brillant du tout. Je suis étonné par le nombre de ralentissements que j'ai, parfois sans raison, pas forcément avec 10 000 applications ouvertes. Alors j'espère que son successeur apportera son lot d'optimisation et offrira une meilleure gestion de la mémoire. Je signerai pour ça, pour macOS. Hein. Mais sinon, c'est fou, hein. On parle depuis quelques minutes, on n'a pas encore prononcé le mot d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui se passe ?
C'est vrai.
Je compte sur Tim Cook pour nous surprendre.
Ouais.
Parce que Siri, malgré tout, reste... Voilà, on en a également peu parlé, mais... autant pour macOS, on est prêt à ne demander pas grand-chose, autant pour Siri, les attentes sont très, très, très élevées. Hein.
Eh bien, merci pour ce tour d'horizon. Effectivement, la semaine qui s'annonce va être bien chargée et toute l'équipe sera au rendez-vous pour vous accompagner dans la découverte des nombreuses nouveautés que Tim Cook va nous sortir de son grand chapeau. Alors du coup, ce week-end, on va prendre le temps de rien faire du tout et j'espère que vous aussi. Salut Christophe !
Bon week-end à tous et lundi à 19h sur lekeynote.fr.
Et quant à nous, on se donne rendez-vous dès lundi matin pour de futures aventures.